Mais pour aujourd'hui, je vous réserve une petite lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, un petit texte que nous connaissons relativement bien, me semble-t-il. Nous lirons donc à partir du verset 1. Jean, chapitre 5. Après cela, le « cela », c'est la rencontre et la guérison, vous savez, du fils du fonctionnaire royal qui était malade. Après cela, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin, qui s'appelle en hébreu Bethsaida, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, et lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. » Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. Il leur répondit, « C'est celui qui m'a rendu la santé qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé. En effet, il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Amen. Pendant nos vacances, on a été visiter avec les enfants France Miniature. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. Vous voyagez à travers toute la France en quelques heures. Et donc, c'est une représentation de plusieurs sites assez formidables de la France. Et puis, à un moment donné, alors que nous descendions dans le sud de la France, nous avons découvert une belle basilique. C'était la basilique de Notre-Dame de Lourdes. Devant cette basilique, il y avait une famille, un papa, une maman, avec leur petite fille. Et le papa et la maman ont dit à la petite fille, « Tiens, prends une pièce, jette-la dans l'eau et fais un vœu. Mais surtout, ne nous le dis pas, parce que si tu nous le dis, ça ne se réalisera pas. » La petite fille a obéi, jeté sa petite pièce et fait son vœu. Et puis après, les parents sont passés devant, vous savez, il y a un petit panneau qui explique ce que c'est que cette basilique. Ils ont vu Notre-Dame de Lourdes et se sont dit, mais c'est quoi cet endroit? C'est quoi ce lieu? Et finalement, ces personnes, un peu typiques de nos contemporains, se sont arrêtées, ont regardé, jeté une petite pièce au hasard en faisant un vœu, sans comprendre que ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient devant eux, avait une autre dimension religieuse, alors discutable certes pour nous protestants, bien sûr, mais il avait quelque chose d'autre. Et je me suis dit, ces personnes sont typiques de nos contemporains, qui se disent incroyants. J'ai lu un sondage, c'était plus de 50% des personnes se disent incroyants. Et pourtant, combien lisent l'horoscope? Combien se réjouissent d'avoir trouvé un trèfle à quatre feuilles en se disant « ça va me porter chance » Combien font un vœu quand il y a une étoile filante? Suzanne en a fait pour voler. Elle a bien vu que ça n'a pas marché. Combien? Et je crois qu'au fond, c'est cette réalité-là qui résonne en nous. Au fond, cette impression, ce petit silence, cette petite flamme qui est là et qui nous dit qu'il y a quelque chose d'autre. Et parfois, l'être humain a tendance à calfeutrer ça, à cacher cette réalité spirituelle de ce petit écho qui résonne en lui. Écho face à la beauté, face à l'injustice. Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ce que nous avons vécu, nous avons vu dans notre vie, dans l'actualité, des moments où on se dit « mais quand est-ce que tout cela va s'arrêter ? Quand est-ce que justice sera rendue pour les crimes des uns et des autres ?» Il y a un écho qui résonne. C'est la voix discrète de Dieu qui se présente à nous à la croisée de nos chemins. Alors, à la première lecture de ce texte de l'Évangile de Jean, on a l'impression d'être un petit peu comme ces instants de cette petite fille qui va jeter une pièce en espérant que ce vœu se réalise. Un petite histoire, une petite situation d'un homme paralysé depuis 38 ans qui espère, tant bien que mal, arriver dans une piscine où de temps en temps ça bouillonne pour pouvoir être guéri. Au petit bonheur, la chance. Mais en réalité, ça va être l'occasion pour lui de rencontrer un homme, et pas n'importe quel homme, c'est Jésus. Et pour notre méditation de ce matin, je voudrais juste qu'on parte d'abord du problème. On ne va pas forcément décrire toute l'histoire, mais quel est le problème ? Qu'est-ce qui est reproché à Jésus ? A priori, est-ce que c'est la guérison ou est-ce que c'est le moment pendant lequel il fait cette guérison ? Parce qu'en partant de ce problème, nous allons comprendre le signe que Dieu veut adresser à cette personne et à nous. Alors pour comprendre le signe, il faut d'abord se pencher un tout petit peu sur le sabbat. Qu'est-ce que le sabbat ? Alors il y a des spécialistes parmi nous, alors je ne vais pas développer, mais simplement rappeler que le sabbat c'est un instant dans la semaine où on s'arrête. On s'arrête de travailler, de vaquer à nos occupations, pour nous tourner vers Dieu. C'est un moment de célébration, de joie, un moment où on réalise que l'on est limité et que l'on dépend de Dieu. C'est un signe visible que nous appartenons à Dieu pour le peuple juif. Voilà ce que c'est le sens du sabbat. Et petit à petit, le sabbat a eu ce symbole du repos en Dieu, de ce moment où on prend le temps d'être avec Dieu. Mais voilà que le sabbat a pu être aussi transformé en une obligation déroutante. Et c'est bien ce qui est reproché ici à cet homme. Tout juste guéri, il lui est reproché de porter quelque chose. Et c'est vrai que dans le livre qui rassemble toute la tradition autour du sabbat, il est interdit de porter quelque chose d'un endroit à un autre. Il est cependant autorisé de porter un lit, pourvu qu'il y ait quelqu'un dedans. Donc là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc au fond, cette personne enfreint bien le sabbat. Alors Jésus, cher Jésus, cet homme est paralysé depuis 38 ans. Voilà que tu le guéris et tu lui demandes de prendre son grabat et de marcher. Autrement dit, d'enfreindre le droit canonique, les principes religieux. Jésus, tu ne pouvais pas attendre un jour de plus ou un jour de moins. Après tout, 38 ans, bon, c'est long, mais ce pauvre homme n'est pas un jour près. Est-ce qu'au verset 6, Jésus n'aurait pas pu dire « Veux-tu retrouver la santé ? Prenons un rendez-vous, j'ai mon agenda sous la main. » Non. Et pourtant, Jésus respecte les fêtes de son peuple. C'est bien pour fêter une des grandes célébrations de son peuple qu'il vient à Jérusalem et qu'il rencontre cet homme-là. Et si, dans la démarche de Jésus, il y avait un élément intentionnel ? Et si celui qui est venu jusqu'à nous n'avait pas quelque chose à nous dire ? Parce que comme il est entré, vous savez, dans le temple de Jérusalem à la Pâque, il est entré sans sacrifice, il rentre là pour nous dire quelque chose autour de la présence de Dieu. Car il est lui, celui qui viendra ôter le péché du monde. Voilà le message qu'il vient délivrer. Mais il va adopter une pédagogie particulière pour cet homme-là. Parce que Jésus ne réagit, semble-t-il pas, de façon impulsive, spontanée. Mais en voyant la misère de cet homme, il guérit. Et pour le conduire petit à petit à découvrir qui il est et quelle est sa mission. Alors pour aller plus loin dans notre réflexion et la compréhension de ce signe, il faut effectuer une petite remontée en arrière, toujours autour du sabbat, et de deux textes qui fondent le respect de ce moment. Le premier se trouve dans Exode 20. « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. » Et un autre motif de respect que l'on trouve dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5, versets 12 à 15. « Tu te souviendras de ce que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu, t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. » Le sabbat doit être respecté, parce qu'il est lié, d'après ces textes, à deux moments fondateurs, deux moments clés du peuple juif, la création et la délivrance d'Égypte, délivrance de l'esclavage. Et ces deux paroles font écho à ces deux paroles que Jésus va adresser à cet homme. D'abord, au verset 8, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et l'autre, au verset 14, « Eh bien, tu as retrouvé la santé. Va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Quelque chose de pire. Il y a là deux paroles. Une parole de création, de recréation d'un homme paralysé qui va de nouveau marcher. Et il y a d'un autre côté, parole qui libère de l'esclavage du péché. Oui, cet homme reçoit ces deux paroles du Christ, deux signes de ce qu'est le sabbat annoncé, revisité par Jésus. Jésus vient annoncer le temps de la recréation, de la nouvelle création. Il vient annoncer la liberté de la culpabilité, la liberté face au grand mal dont nous sommes si souvent spectateurs, qu'est le péché. Oui, voilà le signe que Jésus fait en revisitant le sabbat par cette guérison incroyable. Parole de création, parole de don de la vie et parole de libération et de l'esclavage. Il est en train de dire à cet homme-là, je recrée en toi la vie. Je te remets en marche pour que tu comprennes ce que je veux dire, ce que je suis venu faire, c'est te libérer d'un mal bien plus grand que ta paralysie, qui est le péché. Jésus révèle en ce jour de sabbat qui il est et ce qu'il est venu faire. Et il y a un autre élément intéressant, c'est cette parole qu'il adresse aux autorités juives, qui explique pourquoi cette infraction flagrante du sabbat était bien intentionnelle. Voici ce qu'il dit au verset 17. « Tout comme son père, tout mon père est à l'œuvre, jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Jésus, par ses paroles, témoigne de son unité profonde avec Dieu, de sa communion, de son identité divine et de l'action qu'il est en train de faire. Car si Dieu s'est arrêté de créer le septième jour, il n'a pas cessé d'agir, de porter l'humanité. Et un jour viendra le temps où il jugera ce monde, où il jugera les bonnes, les mauvaises actions. Et voilà ce qu'est en train de dire Jésus. Il viendra un temps où moi et mon Père, nous jugerons ce monde. Parole qui fait froid dans le dos, car on aime entendre l'Évangile, parole d'amour, de joie, de nouvelle vie, de recommencement, mais entendre parler de jugement, c'est si difficile. Et pourtant, nous avons cette petite voix, ce petit écho dans nos cœurs quand nous voyons le mal. À quand l'injustice finira ? Quand est-ce que ces souffrances finiront ? Le Christ est en train de lui dire « Voici, les temps sont là. Je suis venu donner la vie, libérer de l'esclavage, mais aussi annoncer le temps du jugement. » Alors, autour de cette question du sabbat, de ces signes, s'entrecroisent deux cheminements, celui de cet homme paralysé et de ces autorités juives, de ces personnes bien pensantes, bien respectables. Il y a cet homme qui gît là depuis 38 ans, près de la porte des moutons, porte qui vraisemblablement était l'endroit où on accompagnait les bêtes pour le sacrifice. Il y a là donc une force encore assez symbolique dans notre passage. Car qui est-ce qui est décrit comme celui qui est maltraité, affligé, couvert de blessures, qui n'a pas ouvert sa bouche, semblable à un mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, qui n'a pas ouvert la bouche. Qui est celui même qui se décrit comme la porte des moutons et qui dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des verts pâturages. » Quel est cet homme qui passe là, parmi ceux que l'on ignore, parmi ceux qui ne sont pas respectables, si ce n'est celui qui va porter sur lui le poids du péché du monde. Jésus prend l'initiative de la rencontre. Et c'est ça qui est assez formidable. Au lieu de passer son chemin, Jésus voit la misère, voit nos misères, voit nos paralysies, nos infirmités, et il s'arrête devant cet homme, malheureux depuis 38 ans. 38 ans, le temps symbolique du peuple d'Israël resté au désert, avant de connaître la terre promise. La délivrance est proche pour cet homme, mais il ne le sait pas, mais Jésus lui le sait. Et Jésus porte ce regard et cette parole. « Veux-tu retrouver la santé ? » Veux-tu retrouver la santé ? Et là, on s'arrête. Et on se dit, non mais Jésus, tu prends le temps de marcher, tu passes par cette porte, tu vois là plein de malades, des estropiés, des infirmes, des aveugles, tout. Tu t'adresses à cet homme dont tu sais la situation désespérée et tu lui dis, veux-tu retrouver la santé ? Veux-tu retrouver la santé à un homme qui est malade ? Question plus ou moins bizarre quand même. Mais comme à chaque fois, comme à chaque passage de l'évangile de Jean, les paroles de Jésus ne sont pas dites au hasard. Parce qu'il est en train de conduire ce malade sur un chemin. Chemin de vie pour lequel il a besoin de prendre du recul. Besoin de prendre conscience qu'il ne peut rien faire seul. Et c'est bien ce qu'il prend. Ce dont il prend conscience, puisque personne ne peut le conduire, personne ne peut le mener jusqu'à ce bassin qui bouillonne pour être guéri. Et nous, chers amis, Et ce monde n'a-t-il pas besoin d'entendre ce « veux-tu » ? N'avons-nous pas besoin de prendre ce recul pour réaliser que bien souvent, nous avons les bras trop courts, les jambes immobiles pour bien agir, pour bien aider, pour bien parler, pour bien prier et réaliser notre profond besoin de Dieu et de son Esprit Saint. N'avons-nous pas besoin d'entendre ce « veux-tu » ? Lorsque le péché nous assaille, nos mauvaises tendances nous assaillent également. N'avons-nous pas besoin à ce moment-là de prendre le recul lorsque l'on est sur le front de la bataille face au péché ? Prendre le recul que sans Christ, nous ne pouvons rien. C'est lui qui nous rend libres, vainqueurs sur le péché. C'est lui qui retransforme nos vies, qui nous recrée de l'intérieur par son Esprit Saint. Cet homme paralysé chemine alors et reconnaît bien que sa situation est sans issue. Et nous avons bien souvent besoin également de reconnaître que nos situations sont sans issue, sans Dieu. Il est là, cet homme paralysé, toujours perdant dans cette course vers le miracle. Et c'est là, alors qu'il le revoit dans le temple, guéri, dans l'étape suivante de ce cheminement, que Jésus adresse une parole assez étonnante. Le chemin n'est pas terminé pour lui. Il a conscience qu'il a été remis sur pied, que Jésus, par une simple parole, par une parole qui a donné un ordre, « Lève-toi et marche », Jésus, par sa parole, a recréé, n'est-ce pas un attribut divin ? Il dit et les choses se font. Mais semble-t-il, le cheminement de ce pauvre homme n'est pas terminé, puisque Jésus lui adresse une parole assez étonnante, au verset 14. « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Oui, l'homme paralysé est sur le chemin du nouveau recommencement. Mais ça reste à construire. Parce qu'ici, Jésus est en train de lui dire « Ta guérison physique n'est qu'une première étape vers une guérison plus profonde, une guérison spirituelle. Car ce pire, c'est bien ce destin auquel tout homme, toute femme chemine s'il ne croit pas au Christ. » Parole terrible, que ce pire, que ce jugement divin de Dieu sur sa création. Le pire, ici, semble, à première lecture, donner un petit malentendu, de faire un espèce de lien entre le péché et la maladie. Et il faut faire très attention avec cette question-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des textes bibliques qui illustrent, qui racontent que la maladie peut être une conséquence d'un péché. On a quelques exemples. Et les contemporains de Jésus, en Jean 9, considéraient effectivement que la souffrance était le résultat d'un péché. Alors, soit nous adoptons une vision assez simple, en disant, au fond, toute maladie est issue d'un péché, tout péché va contribuer, va donner, va créer une maladie. Soit nous adoptons une position plus réfléchie, qui est celle de Jésus, celle d'un homme, fils de Dieu, qui ne se résout pas à une explication aussi simpliste. Et d'ailleurs, n'y a-t-il pas des hommes droits, des hommes justes, aux yeux de Dieu, qui ont souffert dans la Bible ? Je pense à Job, à Paul, etc. Alors ce pire dont il est question n'est pas une maladie plus grande, au risque de tomber dans un espèce d'évangile de la prospérité à l'envers. Si tu fais quelque chose de mal, alors une maladie va forcément te tomber dessus. Mais ce n'est pas le sens du message de Jésus. Jésus chemine avec cet homme, le met en route pour qu'il comprenne que le signe de sa guérison physique est une étape dans la guérison spirituelle auquel il est appelé. Guérison physique, guérison spirituelle. Le Seigneur agit dans nos vies, dans ces deux dimensions, physique et spirituelle. Mais à ses yeux, elles ne sont pas d'égale importance. Il est vrai que plein de fois, maintes fois, nous prions pour la guérison physique. Et il faut continuer de le faire. Mais ce qui est important, c'est aussi cette guérison spirituelle, ce chemin sur lequel Christ invite tout homme à marcher. Peut-être le Seigneur donnera la guérison physique en plus, gloire à lui. Peut-être ne l'accordera-t-il pas. N'avons-nous pas prié, chers amis, récemment pour la guérison d'un frère ? N'avons-nous pas passé du temps dans la prière ? Mais quel était le plus important dans cette situation ? Quel est l'objet de notre consolation aujourd'hui ? Si elle est dans la simple guérison physique, pardonnez-moi, mais nous sommes sans espoir. Mais si elle est dans la conviction profonde que la guérison spirituelle avait eu lieu, alors nous pouvons nous réjouir qu'un jour, nous reverrons celles et ceux qui nous ont devancés dans la mort. Voilà donc ce que le Christ est en train de dire à cet homme paralysé. Et il y a un autre chemin, celui qui est pris par ses autorités, par ceux qui vont bien, par ceux qui vont décider, mettre en place un projet qui va conduire à la mort. Leurs bras, leurs jambes vont se mouvoir pour aller porter Jésus à la croix. Et comble de l'ironie, c'est leur projet de mort qui va donner la vie. C'est leur projet de mort qui va conduire le Christ sur la croix et le Christ à ressusciter. Alors, chers amis, quel chemin allons-nous prendre ce matin ? Quelle que soit notre situation, notre passé, nos expériences, nos mauvaises actions, nos erreurs, nos victoires ou nos défaites, quel que soit notre handicap, le Christ nous appelle ce matin à recevoir de lui la guérison intérieure, la vie qu'il veut recréer, son Esprit Saint qui veut retransformer nos vies, recréer ce qui a été terni par le péché. Jésus veut nous libérer de l'esclavage du péché. Et il nous dit simplement, veux-tu ? Veux-tu cela ? Veux-tu ? Je voudrais juste terminer par cette prière dont le titre est « Prière d'un handicapé ». J'avais demandé à Dieu le pouvoir pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible afin que j'apprenne humblement à obéir. J'avais demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour que je puisse être sage. J'avais demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes. Il m'a donné la faiblesse afin que j'éprouve le besoin de Dieu. J'avais demandé un compagnon de route afin de ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur afin que je puisse aimer tous mes frères. J'avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie. Il m'a donné la vie, afin que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis parmi tous les hommes le plus richement comblé. Amen.